Versets 12 à 15. Philippiens 2, 12 à 15. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, non seulement en fonction de ma présence, mais d'autant plus maintenant en mon absence, mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement. Car c'est Dieu qui opère en vous le vouloir et le faire pour son bon plaisir. Faites tout sans murmure ni réticence pour être irréprochable et pur, enfant de Dieu sans défaut, au milieu d'une génération perverse et dévoyée, dans laquelle vous brillez comme les lumières du monde en portant la parole de vie. Ce que j'aimerais voir avec vous ce matin, c'est cette expression « le bon plaisir de Dieu ». Le bon plaisir de Dieu. Nous trouvons cette expression dans la bouche même de Jésus, dans Matthieu 11, lorsque dans sa prière, il a dit « Je te loue, Père, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, mais de ce que tu les as révélées aux tout-petits. » Et il ajoute « Oui, tel a été ton bon plaisir. Tel a été ton bon plaisir. » Et puis l'apôtre Paul aussi, dans sa lettre aux Éphésiens, chapitre 1er, il parle du bon plaisir de Dieu, de sa bienveillance, de son dessein bienveillant. Alors nous allons voir dans quel contexte ici l'apôtre Paul parle de ce bon plaisir de Dieu. L'apôtre s'adresse dans cette lettre à des croyants qu'il porte en son cœur. Il les chérit dans la tendresse même de Jésus-Christ, comme il l'affirme au début de sa lettre. Il rappelle que les membres de cette petite église de Philippe ont participé à ses côtés au combat pour l'annonce de l'Évangile, dès le premier jour. Il note aussi combien ils n'ont cessé de l'assister par leurs prières et par des secours matériels, même pendant son emprisonnement. C'est donc une affection profonde qui s'est tissée entre Paul et les chrétiens de Philippe. Aussi, alors qu'il est lui-même captif à cause de l'Évangile, les encourage-t-il à poursuivre le combat en mettant en œuvre leur salut. Mais pour nous aujourd'hui, que peut signifier cette exhortation à mettre notre salut en œuvre? Il est juste de poser cette question, car la recommandation garde toute son actualité. Jusqu'au retour de notre Seigneur Jésus-Christ, l'Évangile doit être annoncé autour de nous. L'Évangile doit porter du fruit en nous, autour de nous. Tout disciple du Seigneur est appelé à témoigner par un comportement nouveau, en accord avec le salut qu'il a reçu. C'est dire que l'épanouissement de la grâce du salut est appelé à se manifester à l'extérieur comme à l'intérieur de nous-mêmes. Comment y parvenir? En vue de cela, l'apôtre mentionne deux conditions qui paraissent inséparables. Ses propos laissent percevoir tout d'abord ce qui incombe aux croyants, à savoir un travail, une tâche, un labeur, puisqu'il leur est dit « Mettez en œuvre votre salut ». Mais directement associé à ce facteur, un autre élément majeur et incontournable est signalé par l'apôtre. C'est l'œuvre que seul Dieu peut accomplir. L'apôtre ajoute en effet « C'est Dieu qui fait en vous le vouloir et le faire selon son dessein bienveillant. Voilà les deux facteurs principaux des propos de Paul. Mais il y a un troisième élément qui n'est pas sans négligence, qui n'est pas à négliger. Et cet élément est le suivant, avec crainte et tremblement. Donc d'un côté, le travail du croyant, de l'autre, l'œuvre que Dieu seul peut accomplir, mais entre les deux, il y a les dispositions qui doivent nous inspirer, la crainte et le tremblement. Aussi, notre méditation sera basée sur ces trois instructions que comporte l'annonce de Paul: mettre en œuvre notre salut avec crainte et tremblement, et Dieu qui opère le vouloir et le faire pour son bon plaisir. Mettez en œuvre votre salut. En abordant ce premier point, je crois qu'il nous faut écarter un écueil qui paraît menaçant. Mettre en œuvre son salut ne signifie en aucun cas prendre soi-même son salut en main. Car si nous avons reçu le salut par grâce, c'est aussi dans la grâce que nous devons croître. Rien ne vient de nous. Rien ne se produit par notre capacité. Tout est dû au bon plaisir de Dieu. Et tout doit se développer pour son bon plaisir. Autrement dit, tout est don. Un don ineffable, nous dit l'apôtre ailleurs. Et ce don, ce cadeau, en quelque sorte, nous devons le déballer. Le déballer pour le faire voir à tous. Ce n'est pas nous qui construisons, fabriquons ce cadeau. Nous l'avons reçu, mais il faut le déballer aux yeux de tous. Cette lettre que nous avons reçue, porteuse d'une bonne nouvelle, il nous faut l'ouvrir pour en prendre connaissance et nous réjouir avec tous ceux qui en entendront le contenu. Cette lumière qui est devenue nôtre, nous devons la placer à un endroit bien situé dans la maison, afin que tous ceux qui entrent dans notre maison voient la lumière. Cette petite semence semée dans nos cœurs doit croître, grandir et porter du fruit. Voilà en gros l'aspect global de cette mise en œuvre du salut qu'on a reçu et que nous avons à entretenir. Or, ce qui pourrait entraver l'épanouissement du salut, ce sont parfois nos petites manœuvres personnelles. Car, après avoir tout reçu par grâce, on pourrait céder à la tentation de recourir à des moyens charnels pour achever ce qui a été commencé par l'Esprit. Rappelez-vous comment Paul a sanctionné cette erreur des Galates. Alors que ces Galates étaient devenus fils de Dieu uniquement par la foi en Jésus-Christ, alors qu'ils avaient revêtu Christ par le baptême en son nom, les voilà, ces Galates, qui ont cru devoir ajouter la pratique des œuvres, entre autres la circoncision, afin d'être sauvés. Je ne peux m'empêcher ici, je ne l'ai pas noté, mais de raconter une histoire qui circulait chez nous, à Haïti, dans mon enfance. C'était l'histoire d'un jeune homme qui a été invité chez les parents de sa fiancée. Et comme il arrive souvent là-bas, de fortes averses arrivent brutalement, qui n'en arrêtaient pas. Les parents de la fiancée disent à ce jeune homme, eh bien, vous allez rester chez nous passer la nuit. Et ce jeune homme, en entendant cette nouvelle, il était tellement content, il se sauve en courant. Personne ne comprenait son geste. Quelques temps après, il revient avec un petit paquet. Alors on lui dit, mais où est-ce que vous avez été ? Eh bien, j'ai été chercher mon pyjama et ma trousse de toilette. Donc on a voulu le garder pour empêcher qu'il sorte, mais le voilà lui qui fait le contraire, il sort sous la pluie. Eh bien, il peut nous arriver de ces inconséquences. Tout nous a donné, nous sommes déjà fils de Dieu. Et nous pensons être malins pour ajouter quelque chose. Quelle folie! C'est ce que l'apôtre disait aux Galates. Quelle stupidité! Mais ici, dans cette lettre, dès le début, Paul prévient les Philippiens. Il les encourage à s'appuyer sur celui qui est au commencement de leur salut et qui le mène à son accomplissement. Il leur dit, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous une œuvre bonne en poursuivra l'achèvement jusqu'au jour de Jésus-Christ. » Pas la peine d'ajouter quelque chose. Celui qui a commencé, il est assez grand, assez sage, assez puissant pour aller jusqu'au bout. Bien entendu, cette intervention efficace garantie par Dieu ne doit pas laisser les Philippiens oisifs. D'ailleurs, à leur actif, Paul note qu'ils ont toujours été obéissants. C'est pourquoi, ici, en leur demandant de mettre en œuvre leur salut, Paul n'hésite pas à leur préconiser de tout faire sans murmure ni réticence. Vous avez bien commencé par obéir, et bien poursuivez cette attitude, ce geste, ce comportement, sans murmure ni réticence, face à tout ce qui se présentera devant vous. L'apôtre les encourage à progresser dans l'obéissance. Mais cette obéissance ne doit pas être confondue avec une certaine observance contrainte et forcée de certaines prescriptions légales. Se conduire d'une manière digne du Christ, c'est se laisser guider, entraîner par des dispositions nouvelles, intérieures, mais qui découlent de notre union avec Jésus-Christ. Or, cette union que nous avons avec Jésus-Christ, qui nous donne des dispositions nouvelles, implique nécessairement une dimension communautaire. Ce n'est pas mon petit salut personnel et individuel, mais j'ai toute une communauté dans laquelle j'ai été intégré dans ma communion avec le Seigneur. D'où l'exigence de l'apôtre. Tenez ferme, il s'adresse à tous, tenez ferme dans un même esprit, luttant ensemble d'un même cœur selon la foi de l'Évangile. Donc non seulement mettre notre salut en œuvre n'est pas prendre ce salut en main, mais encore mettre en œuvre ce salut, ce n'est pas une affaire individuelle. C'est ensemble que nous pouvons réaliser cela. Les uns aidant les autres, les uns complétant l'action de l'autre. Paul rappelle dans cette lettre comment, par obéissance au Père, le Christ a fait de sa vie une offrande agréable. Il souligne à propos des Philippiens qu'il leur a été fait la grâce, non seulement de croire, mais aussi de souffrir avec le Seigneur. Et Paul lui-même est passé par là. Les chrétiens de Philippe se souviennent comment Paul a suivi l'exemple de Jésus-Christ dans l'annonce de l'Évangile et comment, eux aussi, ils ont souffert pour Christ en soutenant le même combat. Précisément, ce que Paul prescrit, c'est ce qu'il vit, c'est ce qu'il met en pratique. Il ne leur donne pas un enseignement pour eux et non pas pour lui. Par exemple, l'exemple qu'il leur donne, c'est que dans la prison où il se trouvait, de là il a appris les agissements malveillants de ses adversaires. Pendant qu'il était en prison, ses adversaires profitaient pour dénigrer son œuvre. Mais au lieu de se laisser abattre, Paul rend plutôt grâce pour la proclamation de la bonne nouvelle. Et il déclare avec certitude, « Je sais que cela tournera à mon salut. » En toute situation, Paul mettait son salut en avance. Il est sauvé, et celui qui l'a sauvé dans cette situation présente continuera de manifester sa grâce. C'est pourquoi Paul ajoutera au chapitre 4 de cette lettre qu'il a appris à se suffire dans toute situation, que ce soit dans la privation ou que ce soit dans l'abondance. Et il ajoute même, « Je peux tout par celui qui me fortifie. » Voilà donc cet aspect global de mettre le salut en œuvre. Dans toute situation, que nous fassions connaître par notre comportement, notre attitude, que nous sommes des gens sauvés, qui ont un sauveur, des gens qui ne se laissent pas abattre, parce que celui qui a commencé poursuit son œuvre en nous. Même si nous paraissons bloqués, arrêtés, lui, comme Paul le dit ailleurs, la parole de Dieu n'est pas liée. Deuxième point de l'exhortation de Paul, avec crainte et tremblement. Mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement. En disant cela, Paul venait de parler de Jésus-Christ qui s'est abaissé et qui a été ensuite élevé. C'est dans cet abaissement que nous devons voir la crainte et le tremblement. En nous conformant à l'exemple de Jésus-Christ, nous donnerons la preuve de notre amour pour le Seigneur et nous exprimerons notre adhésion à la volonté divine. Nous lui exprimons notre reconnaissance, car nous avons été créés en Jésus-Christ pour les œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous nous y engagions. C'est-à-dire, cet événement que je n'ai pas souhaité, ces circonstances contradictoires, chaotiques, que je n'ai pas voulu, que je n'ai pas recherché, au sein même de cette situation, il y a des œuvres que le Seigneur a préparées pour moi. C'est dans cette mentalité que nous avons à aborder les événements de la vie, avec crainte et tremblement. Par conséquent, puisque le Seigneur les a préparées pour moi, je ferai attention à la manière dont je vais réagir. Je vais m'engager. S'engager dans les œuvres que le Seigneur a préparées implique un comportement humble et confiant. Confessant que Christ est Seigneur, le croyant accueille sans maugréer toute lutte, tout labeur qui s'offre à lui. Paul rappelle l'offrande de la vie de Jésus-Christ. Car dans sa crainte et dans son tremblement, Jésus cherchait sans cesse à plaire à celui qu'il a envoyé dans le monde, à son Père. Et ce désir de plaire atteignit un niveau extrême quand, dans le jardin de Gethsémané, il était en prière. La crainte respectueuse et le saint tremblement l'envahirent au plus haut point, car il ne voulait pas passer à côté de la volonté du Père. C'est cette crainte respectueuse qui traduit notre attachement pour le Père et pour sa volonté. Nous ne voulons pas le décevoir. Tout à l'heure, nous avons chanté « Je ne sais pourquoi, dans sa grâce, Dieu m'a tant, Jésus m'a tant aimé ». Eh bien, que la crainte et le tremblement nous animent pour le suivre jusqu'au bout. Paul encourage les Philippiens à faire preuve des mêmes dispositions que Jésus avait, en leur rappelant que croire en Jésus-Christ et souffrir pour lui, c'est une grâce. Et dans notre passage, Paul dira, croire et souffrir, c'est un culte, c'est une offrande que nous faisons à Dieu, de notre vie, de nos corps. Je sais que tout cela tournera à mon salut. Si nous saisissons donc l'exemple de Jésus et celui de Paul, une attitude inspirée par la crainte et le tremblement nous conduira à la prudence, à la vigilance constante et à une joyeuse espérance. Tout cela est dans la crainte et le tremblement. La prudence, je surveille, je veille et je garde une espérance joyeuse. Cette attitude consisterait d'une certaine manière à rester constamment en tenue de travail. C'est l'expression que Jésus a employée. Rester en tenue de travail car il s'agit d'être toujours disponible pour le service de celui auquel nous voulons plaire avec crainte et tremblement. Mais c'est aussi rester dans l'entière dépendance à ce maître, car nous attendons son secours et nous attendons son avènement, son retour. Enfin, en parlant de cette crainte et de ce tremblement, l'apôtre ne manque pas de rappeler l'allégresse qui accompagne toujours le salut, même au sein de l'épreuve. On sait que tous les commentateurs de cette lettre aux Philippiens ont pris soin de noter le nombre de fois où l'expression « joie » ou « réjouissez-vous », tout cela est mentionné, le nombre de fois où « joie » et « réjouissez-vous » est mentionné. Alors que Paul lui-même se trouvait dans des situations peu réjouissantes, il avait le courage et la joie de dire « Réjouissez-vous avec moi » et même « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Cette joie n'est pas dans les situations, mais elle est dans le Seigneur qui est fidèle et qui est bienveillant et qui prend plaisir à ce que nous sommes, à ce que nous faisons. C'est le troisième point que nous évoquons. Car c'est Dieu qui opère en vous le vouloir et le faire pour son bon plaisir. La tâche attribuée à tout chrétien, consistant à mettre en œuvre son salut, est donc on ne peut plus sérieuse, car elle s'accomplit avec douleur, avec souffrance, avec opposition. Mais le croyant n'est pas abandonné à sa fragilité. Et c'est afin d'encourager les Philippiens, nous l'avions dit au début, que l'apôtre déclare c'est Dieu qui met en vous le vouloir et le faire. En d'autres termes, Paul leur donne l'assurance que l'action de Dieu à leur égard est d'une efficacité telle qu'il les rendra capables de vouloir et de faire ce qui leur est impossible d'accomplir par eux-mêmes. C'est cette assurance qu'il leur donne. Voilà donc une belle déclaration, une puissante déclaration, me direz-vous. Mais ce que j'aimerais souligner, c'est que cette déclaration n'est pas une invention de Paul. On retrouve des traces de cette déclaration dans l'Ancien Testament. Chez les prophètes qui annonçaient les temps nouveaux, les temps de la Nouvelle Alliance, la venue du Messie. En effet, Jérémie, Ézéchiel et Ésaïe nous parlent de cette promesse. Promesse d'un cœur nouveau et d'un esprit nouveau. Mais avec une explication. Ézéchiel déclare à un peuple inconstant, souillé, rebelle. Ézéchiel déclare de la part de Dieu, je mettrai en vous mon propre esprit, je vous ferai en sorte que vous viviez, que vous suiviez mes prescriptions, que vous observiez mes règles et les mettiez en pratique. Je mettrai mon propre esprit en vous pour vous rendre capable de faire ce que vous êtes incapable de faire actuellement. C'est donc une annonce de ce que Paul dit aux Philippiens, c'est Dieu qui met en vous le vouloir et le faire. On remarque bien que l'intervention de Dieu se passe à l'intérieur. Il n'est pas comme une aide extérieure qui nous donne un petit coup de pouce momentané, mais quelque chose qui réside en nous en permanence, l'Esprit Saint, pour accomplir la volonté de Dieu. De même, Ésaïe déclare au sujet du serviteur parfait qu'est le Messie. Ésaïe déclare, « Voici mon serviteur que je soutiens, celui que j'ai choisi et en qui je prends plaisir. J'ai mis mon esprit en lui et il imposera l'équité. » Donc, Jésus est secouru par son Père, par l'Esprit de son Père, qui lui donne la possibilité d'imposer la justice et l'équité dans le monde. Je dis bien dans le monde, d'abord au sein de son peuple, mais dans le monde, puisque les psaumes et d'autres passages nous disent qu'un jour, toutes les nations viendront se prosterner devant lui. Et le psaume 2 nous dit que toutes les nations sont l'héritage de Jésus-Christ. Et cela se manifestera. Donc on peut noter que dans cette parole, cette promesse qui est faite au Messie, il y a une aide très significative, il y a une action intérieure, celle de l'Esprit, et un résultat efficace, l'accomplissement du dessein de Dieu. Par conséquent, frères et sœurs, la déclaration que nous disions belle et puissante est digne de confiance. Elle expose les réalités des temps nouveaux où le règne de Dieu vient changer notre situation à nous, des humains malheureux. Dans le même temps, une situation extrêmement grave nous est signalée. C'est-à-dire, sans cette intervention de l'Esprit, sans cette intervention, rien ne se produit. Rien ne saurait advenir. Tous nos efforts resteront vains. C'est l'échec total, c'est la stérilité, et nous n'avons en face que la mort. Donc d'un côté, il y a la promesse qui est belle et puissante, mais sans elle, nous devons dire, c'est la mort, c'est la stérilité. Cela veut dire que cette intervention, ce n'est pas une notion, ce n'est pas une option plutôt, ce n'est pas facultatif. C'est nécessaire, c'est indispensable. C'est cette notion d'indispensable qui nous renvoie à Jésus-Christ, comme Paul l'a exposé au chapitre 2 de cette lettre. Jésus qui nous apprend que pour accueillir cette puissance, nous ne pouvons le faire que dans l'abaissement, dans l'humilité. C'est lorsque nous reconnaissons que nous ne pouvons rien, c'est lorsque nous pouvons capituler, c'est à ce moment-là que cette puissance intervient en nous. L'abaissement de Jésus-Christ, son renoncement, nous appelle, nous aussi, à tout abandonner à la miséricorde de Dieu qui nous fait renaître, qui nous redonne de pouvoir repartir. Car c'est lui qui, c'est lui qui seul prend plaisir en son peuple, qu'il a créé pour sa joie. Appelé, choisi, non en fonction de nos mérites, mais par amour selon sa volonté, nous pauvres humains, nous sommes introduits dans le règne de Dieu, un règne qui vient d'en haut. Ce règne, partout où il arrive, transforme et harmonise et imprime son propre style et son propre rythme. Nous nous souvenons de ce que nous avons contemplé dans la vision d'Ésaïe, l'eau qui jaillissait du temple et partout où elle arrivait, transformait tout selon ses propres lois. C'est ainsi que le règne de Dieu transforme tout selon la loi de l'esprit de vie. Alors quand dans cette lettre, l'apôtre fait mention de cette réalité, le royaume de Dieu, il n'enseigne pas une vague théorie. Son existence même et son ministère sont marqués par cette réalité. Rappelez-vous comment, d'après le livre des Actes au chapitre 16, comment Paul, avec Silas, a été amené à annoncer la bonne nouvelle aux Philippiens. Le chapitre 16 nous dit que Paul et Silas avaient tenté de se rendre en Asie mineure, mais l'Esprit de Dieu les en a empêchés. Ensuite, ils ont voulu se rendre en Bithynie. Là encore, l'Esprit de Jésus leur en a empêchés. Et c'est alors que Paul, dans une vision, a perçu les appels au secours d'un Macédonien qui lui dit « Passe en Macédoine et viens nous secourir. » Et Paul et Silas, tout de suite, ont obéi à cet appel. Pourtant, les portes qui paraissaient ouvertes apparemment résistaient. Car c'est à travers de rudes combats, au milieu de grandes souffrances physiques, que la parole libératrice a été annoncée à ces Macédoniens qui appelaient au secours. Paul et Silas n'ont pas été accueillis à bras ouverts. Après la conversion de Lydie et l'affranchissement d'une servante possédée d'un esprit de divination, Paul et Silas sont arrêtés, battus et jetés en prison avec des entraves aux pieds. Mais leur délivrance sera d'autant plus spectaculaire et cette délivrance amènera la conversion du geôlier de la prison. Puisque, nous dit le texte chapitre 16 des Actes, pendant la nuit, vers minuit, Paul et Silas chantaient des cantiques. Et les autres prisonniers les entendirent. Et tout d'un coup, un violent tremblement de terre remua les fondations de la prison. Les portes s'ouvrent, les entraves des prisonniers ont été brisées. Devant cet événement soudain spectaculaire, le geôlier qui voulait se suicider demanda à Paul, « Que faut-il faire pour être sauvé ?» Alors, ce que j'ai voulu souligner en rappelant cet épisode du ministère de Paul, d'un côté, nous humains, nous pouvons avoir des projets, nous pouvons avoir certaines forces disponibles, mais cela ne conduit à rien. C'est la voie du Seigneur, c'est son chemin qui compte, c'est sa volonté, selon son bon plaisir, qu'il nous conduit. Et il nous conduit pas comme nous le pensions, puisque les Macédoniens appelaient au secours. Alors on pourrait penser que Paul et Silas n'avaient qu'à se présenter, prononcer la bonne nouvelle, et ça y est, ils ramassent ceux qui étaient prisonniers. Mais non, il y a eu une résistance. Aujourd'hui encore, selon son bon plaisir, Dieu est à l'œuvre au début de toute conversion et au début de toute fondation communautaire. La lettre aux Hébreux nous encourage en nous disant que le Dieu de paix est celui qui réalise en nous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ. C'est là un encouragement pour nous, dans nos faiblesses, dans nos fragilités, dans nos échecs, lorsque ça ne marche pas, de savoir que toujours il y a la réponse de Dieu qui va se faire entendre. Il nous est demandé d'ouvrir les yeux pour voir le chemin qui nous est indiqué, mais surtout de percevoir les appels qui nous sont adressés. Actuellement, dans notre monde, il y a beaucoup de gens qui appellent au secours. Il y a beaucoup de gens qui se demandent comment être sauvés. Mais nous ne percevons pas toujours ces appels. Nous ne les entendons pas. Demandons au Seigneur d'ouvrir nos oreilles, de nous ouvrir les yeux. Lui qui dit à ses serviteurs, regardez, étendez l'oreille, qu'il nous conduise dans ces moments difficiles pour l'Église dans ce monde, lui qui reste le Dieu de paix, demandons-lui de nous ouvrir les sens spirituels pour continuer son œuvre et pour mettre en évidence son salut jusqu'à son retour. Que le Seigneur nous accompagne et nous bénisse. Amen.